Nous te rendons grâce, ô Dieu notre Père, pour cette joie que nous avons encore d'être ensemble dans cette clairière que nous aimons, parce que nous sommes sous un ciel ouvert et entourés comme d'une haie de protection. Ô, que nous puissions avoir une infinie reconnaissance pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu veux faire pour nous, et que même si tu nous parles aujourd'hui des souffrances que nous pouvons traverser en témoignant pour toi sur la terre, que nous estimions cela comme un privilège et comme une joie, parce que dans nos détresses, dans nos peines, tu nous feras connaître des délivrances proportionnées à la profondeur de nos difficultés. Sois béni, Seigneur, de ce que ta grâce sera surabondante et que nous ne manquerons pas de recevoir cette bénédiction qui vient de toi si nous nous laissons marquer par toi et si, comme Paul, nous puissions dire un jour, je porte en mon corps les marques de Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, nous avons vu hier comment, au chapitre 10, l'apôtre défend son ministère face aux accusations de ses adversaires qui, à Corinthe, ont entrepris une véritable campagne de dénigrement contre l'apôtre qui a pourtant apporté le premier l'évangile à Corinthe. Il exhorte donc les Corinthiens, il les exhorte d'abord avec la douceur et la débonnaireté de Christ, alors qu'on l'accusait justement de ne pas imiter le Seigneur. Et en leur parlant avec cette douceur, bien en cela justement, Paul reflétait ce qu'avait été son maître lorsqu'il était sur la terre. Jésus était doux et humble de cœur. Quand il parlait aux foules et à ceux qu'il rencontrait, c'est par cette humilité que Jésus avait gagné le cœur des hommes, mais spécialement des petits. Je dirais aussi le cœur des femmes, quoique toutes les femmes ne soient pas des prostituées. Mais il est dit que les prostituées s'approchaient de lui pour l'entendre. Elles se sentaient accueillies, même dans la situation délicate, pénible dans laquelle elles se trouvaient. C'est par sa douceur qu'il avait transformé les êtres les plus violents, faisant d'eux des hommes capables même d'aimer leurs ennemis. Ça, c'est la victoire des victoires. Jamais Jésus, dans sa vie terrestre, n'avait fait valoir ses droits ou usé de contraintes contre ses adversaires qui prétendaient que sa mission, il l'accomplissait par la puissance du diable. Voilà ce qu'on disait de Jésus. On ne pouvait pas nier qu'il avait de la puissance, mais les juifs religieux attribuaient cette puissance à qui? À Belzébuth. Mais un jour viendra, pourtant, où les ennemis du Christ connaîtront la hardiesse du Seigneur quand il viendra pour juger le monde. Mais c'est à lui qu'appartient la vengeance. Et c'est ce que nous devons comprendre. Nous ne nous vengerons pas nous-mêmes, même si on nous a fait du tort, mais nous nous en remettons au Seigneur. Le Seigneur l'a vu. Le Seigneur est proche, et comme Joseph le disait à ses frères, est-ce que je suis à la place de Dieu? Je laisse Dieu leur régler leur compte. Mais moi, je m'en remets à lui. Un jour, le Seigneur apparaîtra en puissance et en gloire. Et c'est lui qui, avec une justice parfaite, réglera le compte de tous les hommes. Il a été établi juge des vivants et des morts. Alors, pour l'instant, Paul emploie les mêmes armes que celles qu'avait Jésus. La douceur, la bonté, pour combattre ses adversaires. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant ainsi, tu entasses des charbons ardents sur sa tête. Tandis que la violence excite la violence. Si je frappe, on me frappera en retour. Ça a l'air d'être stupide. Ça a l'air à première vue d'être lâche, mais c'est ça la vraie force. Pouvoir se dominer ou se laisser dominer par le Seigneur au lieu de se laisser aller à la colère. On me frappe, c'est facile que je frappe à mon tour. Alors, regardez Jésus, et c'est cela que Paul, c'est lui que Paul avait contemplé. Regardez Jésus répondant aux questions pièges des Hérodiens qui viennent pour essayer de le surprendre dans ses paroles, pour l'accuser. Ils disent, maître, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Et Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, ben, donnez-moi un denier. Puis on lui met un denier dans la main. Et il dit, de qui est cette image et cette inscription? De César. Et vous connaissez la phrase. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et les voilà confus et qui doivent se retirer. Il agit de même avec les Sadducéens qui lui posent une question piège aussi sur la résurrection. Cette fameuse histoire d'une femme qui a eu 7 maris, les 7 sont morts. Alors de qui sera-t-elle femme de l'autre côté? Et il croit couvrir de ridicule Jésus parce qu'il ne croit pas à la résurrection. Et Jésus leur répond, mais vous errez. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Dans la résurrection, on ne se marie pas, ni on ne se donne en mariage, mais on est comme les anges de Dieu. C'est bien mieux. Ah non, vous avez peur de perdre quelque chose? Vous êtes comme un ange de Dieu? Ça ne sera pas intéressant là-haut, d'être comme les anges de Dieu. Puis aux pharisiens qui viennent aussi lui poser la question, mais qu'est-ce que c'est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus répond avec douceur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, puis le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Et voilà tous ces groupes qui venaient piéger Jésus, qui sont renvoyés. Mais vous voyez les réponses très douces, mais très fermes, de Jésus. Jésus a donc renversé les raisonnements, pour revenir au chapitre qu'on a lu hier, qui étaient semblables à des forteresses et qui s'opposaient à l'évangile que Jésus prêche. Les armes qu'il employait n'étaient pas charnelles, mais puissantes par Dieu. Et Jésus, dans son corps de chair, n'avait pas marché selon la chair, mais dans l'obéissance à son Père, et c'est cela qui est appelé l'obéissance du Christ. Qu'est-ce que c'était l'obéissance du Christ? C'était son obéissance à son Père. Alors il faut que toutes nos pensées soient amenées à cette obéissance du Christ. Comprenez-vous? Cette obéissance qu'il avait vis-à-vis de son Père. bien nous aussi qui devenons les enfants du Père par Jésus, en recevant Jésus, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ne commençons pas par regarder les chrétiens pour se dire, ben, lequel est le meilleur pour que je puisse lui ressembler. Regardez à votre Père des cieux, mais vous me dites, mais moi le Père, je ne l'ai pas vu. Bien, celui qui m'a vu, disait Jésus, a vu le Père. Et on apprend à connaître le Père éternel, le Père des cieux, en entrant dans l'intimité de la vie de Jésus. Et toutes nos pensées, ainsi, doivent lui être soumises. Et cette soumission de toutes nos pensées au Seigneur, c'est cela qui nous affranchit, qui nous rend réellement libres, c'est-à-dire capable d'accomplir la volonté de Dieu. Un homme libre, c'est quelqu'un qui dit, qui ne dit pas, je peux pas faire autrement. C'est un homme qui dit, par la grâce de Dieu, j'ai été libéré de ce joug. Et maintenant, il est possible que je fasse autrement. C'est ça, être libre. C'est pouvoir faire autrement que tout le monde. C'est ça, être affranchi. Être libre, c'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, parce que faire ce que l'on veut nous conduit à la destruction, parce qu'on suit les penchants naturels de notre cœur, et on sait très bien où ils nous mènent, où nous mène le regard de nos yeux, où nous mènent les penchants de notre cœur. Et tout cela fait de nous des esclaves. Et aujourd'hui, vous voyez une foule de gens qui sont esclaves. Et on les rend esclaves même dans les classes primaires, esclaves de la drogue, puis ensuite esclaves de l'alcool, esclaves du tabac, esclaves de tout ce que vous voudrez, esclaves du sexe, et on veut même leur montrer comment, dès leur plus tendre enfance, eh bien, ils n'ont plus besoin de jouer, j'ai lu ça, hein. Ils ont tous les jouets sur eux. Alors qu'ils s'amusent, voilà où on en est, dans cette heure qui est l'heure de la fin, l'heure où tout ce qui se faisait dans les ténèbres, on veut manifester cela dans la lumière parce qu'on est des libérés, hommes ou femmes. Alors, Paul, lui, il est imprégné de cette vision de Christ et il espère que même les rebelles qui sont à Corinthe reviendront à d'autres sentiments, afin qu'à sa venue, ils n'aient pas à employer le feu du jugement. Parce que quand Jésus reviendra, lui aussi, eh bien c'est pour consumer les rebelles. Alors Paul demande aux Corinthiens de ne pas juger selon les apparences, nous l'avons vu hier. Comme les Juifs se prétendait fils d'Abraham, Jésus lui-même, comme homme, il était aussi fils d'Abraham, hein, voyez sa généalogie. Les Juifs disaient, mais nous sommes fils d'Abraham, nous avons pour père Abraham. Et qu'est-ce que Jésus leur répondait? Vous prétendez avoir pour père Abraham, puis vous voulez me tuer? Vous savez qui vous avez pour père? Ben vous avez pour père le diable. Je n'ai pas. Parce que lui est le menteur et le meurtrier dès le commencement. Et quand il vous aura poussé au meurtre, poussé au crime, il se lavera les mains en vous voyant dans la détresse. Et il ricanera, je les ai eus. Ceux qui manifestent le satanisme, c'est le mensonge et le meurtre. Vous devez bannir cela, absolument, et de vos pensées et de vos habitudes. Vous devez apprendre à dire la vérité à votre prochain, quel qu'en soit le prix. On a vu en Europe comment Hitler a pu prendre le pouvoir, tout était basé sur le mensonge et le meurtre. Ça, c'est la marque indélébile du diable. Il est menteur et meurtrier. Et le premier criminel de cette terre a été Caïn. Mais il est dit que Caïn, il était du mal. Si le Christ se glorifiait donc d'être en même temps le fils du béni, ben Paul se souvient que le Christ n'avait pas à rougir de cette affirmation. Quand on lui a demandé, mais devant le tribunal, mais est-ce que tu es le fils du béni, toi le charpentier de Nazareth? Il dit au juge, tu l'as dit. Et il a pu dire ça sans rougir. Alors, Paul a toujours dans sa pensée cet exemple quand il écrit chapitre 10. Oui, malgré les apparences, Jésus était tel sur la terre qu'il était au ciel. Il n'y avait pas de différence. Comme Paul dit, nous sommes tels dans nos lettres que quand nous sommes présents. Jésus, dans un corps de chair, était le Fils de l'homme dont le cœur habitait dans le ciel. Alors, continuant de refléter le Christ, Paul ne se mesurait pas en se comparant à lui-même, comme le faisaient ses adversaires à Corinthe. À Corinthe, eux, ses adversaires, ils se mesuraient à eux-mêmes. La puissance et les œuvres de Paul lui rendaient témoignage. Paul ne cherchait pas sa propre gloire comme quelques-uns le faisaient à Corinthe. Eux recherchaient leur gloire, la gloire qui vient des hommes. Mais Paul, lui, contrairement à eux, ne se glorifiait que son Seigneur et ne se recommandait pas lui-même. Mais pour ne se glorifier que dans le Seigneur, il faut vraiment que le Seigneur soit au centre de nos pensées et qu'il soit devenu l'objet des affections de nos cœurs. Alors, comme le Père avait recommandé son Fils, Paul ne voulait être recommandé que par le Seigneur. Je veux être celui que le Seigneur recommande. Je n'ai pas besoin de recommandations humaines. Je veux être celui que le Seigneur recommande. Quelles étaient les recommandations qu'avait Jésus? Il n'en avait pas des hommes. Il n'avait pas la recommandation du souverain sacrificateur. Il n'avait pas la recommandation des grands maîtres de son temps, mais il avait la recommandation de son Père. Et cela lui suffisait. Alors, après cet aveu de Paul, qui ne veut être recommandé que par le Seigneur, au chapitre 11, l'apôtre va exposer les avantages qui le distinguent et prouver qu'il n'est ni inférieur en connaissance ou en désintéressement à ceux qui se prétendaient apôtres par excellence. Parce que ces gens qui étaient venus à Corinthe, après que Paul y eut établi l'Église, après que Paul y eut travaillé de toute son âme et de tout son cœur, eh bien, eux, ils se disaient apôtres. Et il y en a aujourd'hui qui se prétendent encore apôtres, et même apôtres par excellence, qui peuvent se donner eux-mêmes ce titre. On peut l'interpréter comme ça, que c'était ces gens-là qui troublaient à Corinthe, qui avaient la prétention, eux, être les vrais envoyés, des apôtres. Ou on peut aussi dire que Paul, pensant à ceux que l'on appelait apôtres par excellence, qui c'était ces apôtres par excellence? Ça aurait été Pierre, hein? Ça aurait été les 12. Les 11 plus, celui qu'on avait nommé à la place de Judas, c'était Jésus qui les avait nommés, donc, alors ça aurait été les apôtres par excellence. Mais d'après le contexte, il semble bien que c'est plutôt ces gens qui se prenaient pour des super apôtres. Eh bien, quand Paul pense à eux, il dit, eh bien, je n'ai pas moins de connaissances qu'eux. Et il montre ensuite qu'il leur est supérieur dans la deuxième partie de ce chapitre. Donc, dans la première, il souligne qu'il n'est ni inférieur en connaissance, ni en désintéressement à ceux qui se disaient apôtres à Corinthe. Dans la deuxième partie, qui va du verset 16 au verset 33, il montre qu'il leur est supérieur en travaux et en souffrance pour le nom du Christ. Et alors, c'est une page, je pense que vous l'avez ressenti comme moi, qui est absolument bouleversante. Si vous lisez seulement le livre des Actes pour apprendre à connaître l'apôtre Paul, vous ne savez pas beaucoup. Vous savez, oui, son itinéraire, ses voyages, les villes où il a travaillé, mais son état d'âme. Pour connaître l'état d'âme de Paul, il faut lire les Galates, il faut lire les Éphésiens, il faut lire les Philippiens, et il faut lire surtout cet épître aux Corinthiens, cette seconde épître qui vous montre alors son état d'âme là. Vous le voyez en quelque sorte, si j'osais dire ainsi, tout nu. Je ne sais pas s'il se bronzait comme nous ici, mais enfin, on le voit dans ce qu'il est en réalité. Alors, revenons au verset 1. Tout d'abord, vous pouvez suivre là, verset 1. Tout d'abord, Paul supplie ses lecteurs d'excuser l'imprudence qu'il va faire. Il est très conscient que c'est dangereux ce qu'il va faire. Et s'il va commettre cette folie qui est laquelle ? De parler de lui. Hein. S'il va commettre cette folie de parler de lui, c'est parce qu'il n'a en vue que leur salut. Car il les aime avec la jalousie. Vous direz, mais enfin, Paul est un jaloux ? Non. La jalousie que Dieu a pour ses enfants. Et un père qui n'est pas un peu jaloux hein, du bonheur de ses enfants, pas jaloux qu'il les envie, mais il voudrait que ses enfants soient heureux. Il ne veut pas laisser d'autres les entraîner dans une mauvaise voie, dans un mauvais chemin. Il les aime assez pour leur dire non, là, tu te trompes. N'est-ce pas ? Mais il y a tellement de parents qui, soi-disant par amour, laissent tout faire, mais ils n'aiment pas vraiment. Parce que dans l'amour absolument vrai, il y a un certain degré de jalousie qui n'est pas un défaut, là, mais qui est vraiment une manifestation de l'amour. Le Seigneur nous a confié quelque chose et par amour, nous voulons le préserver, nous voulons le garder pour pouvoir le lui rendre. Vos enfants, vous voulez les rendre au Seigneur. Il vous a donné des enfants. Ben, s'il nous a donné des enfants, c'est pas pour qu'on en fasse n'importe quoi par notre exemple. Mais nous voulons, justement, nous étant ressaisis, reprendre cette position de vrai père et de vraies mères qui n'ont pas démissionné, qui même reconnaissent leurs propres fautes et qui disent au Seigneur, eh bien maintenant, donne-moi de pouvoir être pour mes enfants un véritable exemple qu'ils puissent suivre. Parce que si vous lisez toujours de nouveau dans l'Ancien Testament le livre des Rois, eh bien, vous verrez que dans ce livre des Rois, il est toujours parlé des parents de tel roi, de son père, de sa mère. Et il est dit s'il a fait ce qui était bon ou s'il a fait ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel. Il y a évidemment des exceptions. Il y a eu des rois qui ont eu un père exemplaire et qui ont mal marché. Hein. Et il y en a d'autres qui ont eu des parents misérables qui leur ont donné un mauvais exemple. Et pourtant, par la grâce de Dieu, les enfants n'ont pas suivi les voies de leurs parents. Et sont devenus des modèles. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais si vous voulez que vos enfants vous honorent, eh bien, soyez des parents qui élèvent leurs enfants dans la discipline du Seigneur, et vous aurez un jour des enfants qui viendront vous remercier de leur avoir peut-être dit non. Et l'on connaît de ces enfants qui nous en ont peut-être voulu à certains moments, et puis après qui ont admis que nous avions raison et qui nous ont même remercié. J'en connais aussi qui ont dit, mais tu étais mon père, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Moi je n'étais qu'un enfant, je ne savais pas. Et qui est-ce qui voulait me le dire? C'était à toi de me le dire. Tu étais mon père, tu étais ma mère. Pourquoi tu ne m'as pas arrêté? Tu savais bien qu'il y avait des conséquences. Moi, je ne le savais pas. Comprenez-vous? Un jour, je priais pour une de nos filles qui était vraiment en grand danger dans une certaine école où elle faisait ses études. Et puis, j'ai eu une espèce de vision. J'étais dans mon bureau et j'ai eu cette vision d'un enfant qui, dans la cuisine, allait mettre les mains sur le poêle qui était allumé, poêle électrique, hein, et qui ne se rendait pas compte qu'elle allait se brûler. Alors moi je disais dans ma chambre, Seigneur, garde-la qu'elle se brûle, n'est-ce pas? Ne permets pas qu'elle se brûle. Puis le Seigneur me disait, c'est pas cela qu'on fait. Puisque tu sais que ton enfant qui n'a pas cette connaissance-là, tu vas à la cuisine puis tu la retires. Tu la sors de là. Mais faire un tel geste, ça allait me mettre peut-être dans une situation pénible. Et pourtant, plus tard, on est venu me remercier d'avoir fait ce geste, malgré que j'ai été très critiqué, pas tellement par elle, mais par les amis qui ont dit qu'on brisait sa carrière et tout ce que vous voulez. Puis maintenant, par la grâce de Dieu, elle est au service du Seigneur. Mais elle a pu dire, si tu n'étais pas intervenu à ce moment-là, j'étais une fille perdue. Vous savez, vous pouvez donner une bonne éducation à vos enfants. Vous pouvez les élever dans les principes du Seigneur. Mais si vous ne veillez pas, si vous ne les aidez pas pratiquement, si vous les laissez faire n'importe quoi, ou aller n'importe où, fréquenter n'importe qui, eh bien, hier encore, j'en ai eu le témoignage, dans les larmes d'un jeune homme qui avouait que c'était ses compagnies qui le poussaient à certaines choses, qui le rendaient lui-même profondément malheureux. Oui. Pas plus tard que hier à 5 heures, ça se passait. Alors, vous voyez que nous avons une responsabilité. Je reviens à notre verset 2. Donc, si Paul va commettre cette folie de parler de lui, oui, c'est parce qu'il a en vue leur salut, parce qu'il les aime avec la jalousie de Dieu pour ses enfants. Dieu veut notre bien. Quand on dit que Dieu est un Dieu jaloux, eh bien, c'est uniquement parce qu'il voudrait notre bien. Il veut nous amener à la gloire. Et Paul leur déclare à ses Corinthiens, « Mais voyez-vous, moi, ce que j'ai fait quand je suis venu vous annoncer l'Évangile, et que vous l'avez reçu, savez-vous ce qui s'est passé? Je vous ai fiancé à Christ. Christ dans le ciel. Je vous ai fiancé à Christ. Ça ne veut pas dire qu'il leur a interdit de se marier. Hein, sur la terre. Mais spirituellement, ce que j'ai fait, je vous ai fiancé à Christ. Vous appartenez maintenant à Christ. Vous avez dit votre oui à Christ, comme Marie avait dit son oui devant le Seigneur. Donc, vous appartenez à Christ. Moi, je vous ai fiancé à Christ. Les noces avec le Christ, elles auront lieu quand? Dans le ciel, dans la gloire. Hein. Mais sur la terre, tant d'autres viendront vous solliciter, dites, je suis prise, je suis fiancée. Hein? Il n'y a rien à faire avec moi. C'est trop tard. J'ai déjà dit mon oui. Je suis fiancée à Christ. J'ai tout un manuscrit là-dessus. Il y a au moins 25 ans que j'aurais dû le publier, mais fiancée à Christ. C'est beau. Paul, c'était cela qu'il avait fait parmi les Corinthiens. Alors, il aurait voulu les présenter comme une vierge pure. Il aurait voulu qu'il n'y ait pas d'infidélité. Et ce qu'il craignait, c'est que comme Ève, il revient au chapitre, vous voyez que lui aussi revient à l'Ancien Testament, que comme Ève, c'est la une deuxième page de la Bible, fut séduite par le serpent, eux ne se corrompent dans leurs pensées et ne s'éloignent de ce qu'il appelle la simplicité quant au Christ. C'est-à-dire cette foi qu'ils avaient mise au Christ, cette confiance qu'ils avaient comme étant l'unique sauveur. Ils ne voudraient pas que leur cœur soit partagé. J'ai connu un fiancé qui allait se marier 15 jours plus tard, et qui faisait des propositions à l'une de nos filles, dans un autre pays, où nous étions ensemble, ne lui disant pas qu'il était fiancé. Il allait se marier 15 jours après. Puis il avait fait des études de théologie, mieux que ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et alors vraiment, une jeune fille, c'est pas mal de se marier. Et quand on est seul dans un pays qui n'est pas chrétien et qu'il y a un théologien qui est là, pourquoi pas, peut-être. Alors il faut que le père intervienne et dise la vérité. Alors évidemment, on en veut au père. Pas à la fille, mais l'autre. Mes amis, la vie est un combat. N'ayez pas peur, hein, ça sera toujours un combat. Mais un combat pour des choses positives. Et ce qui me frappe là, c'est que Paul admet donc la réalité historique de la tentation et de la chute dans laquelle le serpent fut l'instrument du démon. Hein, parce que Satan a pris cette forme du serpent pour tenter Ève. Alors Paul, maintenant, il prend cet exemple. Je ne voudrais pas que votre cœur soit partagé. Vous avez dit votre oui au Christ. Comme Adam aurait dû dire son oui à Dieu, ayant dit son oui à Dieu, il devait dire non à Ève. C'est pour ça qu'il est toujours parlé, non pas tellement du péché d'Ève, mais du péché d'Adam. Parce qu'Adam devait être le chef et devait aimer assez Ève pour lui dire non. Si Ève lui demandait de faire quelque chose qui était contre Dieu. Alors Paul continue, verset 24, « Supportez-moi, verset 4, « Supportez-moi qu'il leur dit, puisque je vois que vous supportez déjà ceux qui vous apportent. Vous en supportez chez vous à Corinthe des gens qui vous apportent quoi? Un autre Jésus que je vous ai prêché. Hein. Faites toujours attention. Quel est le Jésus que l'on vous prêche? Est-ce que c'est le Jésus de votre imagination ou le Jésus des prédicateurs modernes qui modernisent Jésus, qui mettent Jésus vraiment à l'heure du jour? Un Jésus parfaitement acceptable, un Jésus à toutes les sauces, qui est tellement bon Jésus, le bon Jésus. Jésus est bon, Dieu est bon, mais Dieu n'est pas le bon Dieu. Vous comprenez? Le bon Dieu, qu'est-ce que c'est le bon Dieu? Dieu est bon, ça veut dire tout autre chose. Jésus est bon. Il est le bon berger. Mais ce n'est pas simplement le bon Jésus. Alors, faites attention. On peut vous apporter un autre Jésus. On peut vous apporter un autre évangile. Ah, il faut moderniser l'évangile. Vous ne pouvez quand même pas suivre l'évangile tel qu'il est. Non, prenez-le tel qu'il est et vous connaîtrez les victoires. Et puis, on vous apporte aussi un esprit différent que celui que vous avez vraiment reçu. Un esprit qui exalte la chair, les émotions surtout. Alors que l'esprit veut maintenir tout ce qui est charnel en nous dans la mort, à la croix. Pour que nous ne soyons pas des décloués. Parce que quand on est des décloués, nos mains font du mal. Laissons nos membres à la croix, cloués. Et puis, vivons de la vie de l'autre, du ressuscité, qui a les mains percées. Et nous porterons nous aussi davantage la marque des mains percé. Alors, Paul leur demande, mais est-ce que je serai inférieur à ces apôtres qui viennent vous apporter un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit? S'il est peut-être inférieur par l'éloquence, parce qu'on a dit que sa parole était méprisable, c'était pas un grand orateur, bien, s'il est peut-être inférieur par l'éloquence, verset 6, il n'en est pas de même quant à la connaissance qu'il a pour l'exercice de son ministère. Et au verset 7, Paul se demande tout à coup, mais est-ce que vous estimez que je suis coupable parce que je vous ai annoncé gratuitement l'évangile? Paul n'était pas un homme qui vivait de l'évangile, oui. Il dit que l'ouvrier est digne de son salaire, mais il n'a pas fait de l'évangile son gagne-pain. J'ai raté telles études, j'ai raté encore celle-là. Alors, je me fais prédicateur. Je fais une école biblique. Relisez le chapitre 18 des Actes. Et vous verrez que Paul, pour annoncer l'évangile dans cette ville absolument corrompue de Corinthe, qui était pleine de lupanards et de tout ce que vous voulez, eh bien, il a travaillé de ses mains. Il a cherché tout de suite du travail. Vous dites, oh, il n'était pas de notre temps. S'il était de notre temps, il n'en aurait pas trouvé. Figurez-vous. Il aurait fait n'importe quoi. Mais il ne voulait être à la charge de personne, alors il a trouvé du travail chez des Juifs venus de Rome, un couple sans enfants, qui était faiseur de tentes. Lui aussi, Paul, tout rabbin qu'il était, il avait un métier. Alors il a pris l'aiguille, et puis il n'a pas été au crochet d'Aquilas et de Priscilla. Il a travaillé avec eux. Et puis, dans son temps libre, il commençait d'évangéliser, mais il a commencé d'évangéliser Aquilas et Priscilla. Puis, dans sa maison, il est venu d'autres personnes. Puis, enfin, alors, des aides, Timothée, les jeunes qui travaillaient pour Paul, sont venus pour l'aider. Et alors, il a pu finalement se donner entièrement à la parole. Mais, frère plein temps, ben, il est capable de prendre un travail manuel pour subvenir à ses besoins. Il ne va pas leur dire, écoutez Corinthiens, je m'en vais vous évangéliser, mais alors payez la salle, d'une manière ou d'une autre. Ou bien je fais l'entrée libre, mais la sortie sera payante, par la collecte. Ben, il n'a pas voulu cela. Alors il avoue que pour les servir,
Bien sûr, il a accepté l'assistance dont il avait besoin d'autres églises qu'il avait connues et qui avaient à cœur son ministère et qui savaient bien qu'on ne vit pas de l'air du temps, qu'on ne peut pas donner tout son temps à la prédication si en même temps on doit travailler 8 ou 12 heures par jour ou même plus. Alors, il dit oui, j'avoue que j'ai accepté des dons d'autres églises, mais qui étaient fondées avant la vôtre, et comme je ne voulais pas vous être à charge, comme je ne voulais pas qu'on puisse dire que j'abusais de vous, que je vous avais annoncé l'évangile et que je ne vous ai payé, eh bien, j'ai accepté les dons de ceux qui n'avaient pas cette pensée, et qui n'ayant pas le don de Paul, disaient, il faut que Paul soit libre pour donner la prédication. Alors, il accepter les dons de ces églises qui avaient une compréhension spirituelle de sa tâche. Oui, il n'avait voulu être à la charge de personne et il proteste et il est dit par la vérité du Christ qui est en lui qu'il ne se laissera pas enlever ce sujet de gloire. Il a ce principe, c'est un bon principe. Et si même d'autres font autrement, et il y en avait à Corinthe qui faisaient autrement, eh bien, Paul continuera dans la ligne dans laquelle il a marché et où il a été béni. Alors, pourquoi agit-il ainsi? Verset 11. Parce qu'il ne les aime pas. Oh non. Mais s'il agira encore de la sorte, c'est justement pour ôter à ses adversaires, à ceux qu'il critique, tout prétexte contre son ministère. Ces gens qui troublaient les Corinthiens au sujet de Paul, agissaient-ils de la même manière que Paul? Est-ce qu'ils manifestaient le même désintéressement? Est-ce qu'ils pouvaient se glorifier d'une telle attitude? Alors tout à coup, Paul y va. Il faut le dire, verset 13. Ces gens-là qui vous troublent, mais qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont de faux apôtres. Et il y a des faux apôtres. C'est pas à moi les nommer. Des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Jésus-Christ, qui se revêtent du nom de Jésus-Christ, qui se déguisent en apôtres de Jésus-Christ, qui ont le nom de Jésus, qui emploient le nom de Jésus, soi-disant pour sauver les âmes, mais en même temps, pour remplir leur portefeuille. Alors il dit, ce n'est pas étonnant qu'il y ait des hommes qui soient de faux apôtres, puisque Satan lui-même se transforme en ange de lumière, et c'est là qu'il est le plus dangereux. Quand Satan est un lion rugissant, ben on entend ses rugissements, hein, on sait que c'est le lion. Alors on n'en a pas tellement peur, hein, parce que le Seigneur est vainqueur. Mais quand il se présente à vous sous cette forme de lumière, sous cette forme angélique, parce que, comprenez-le bien, le diable, il n'a pas des cornes, comme je dis souvent, et des pieds fourchus, et une petite queue, comme ça par derrière. Non, 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 c'est pas ça, Satan. Il a la figure que le monde aime. C'est le tentateur. Hein? Il se déguise en ange de lumière. Alors, puisque Satan se déguise en ange de lumière, ces gens-là qui sont des ministres du diable, ils se déguisent en ministres de justice. Et pourtant, Satan est dans leur cœur. Alors l'apôtre dit, ben, leur fin sera conforme à leurs œuvres. C'est pas à nous à mettre fin à cela. Mais enfin, nous pouvons avertir. Mais leur fin, soyez-en sûrs, sera conforme à leurs œuvres. Et là, je pense à une pensée de Luther qui disait, puisqu'on est dans l'année de Luther, le réformateur protestant, enfin, qui était un moine catholique, mais qui voulait ramener l'Église à la pureté évangélique, il disait, Voyez-vous, les diables blancs sont plus dangereux que les diables noirs. Et c'est vrai. Les diables noirs, on les reconnaît tout de suite. Mais les diables blancs, c'est, je ne parle pas des nègres hein, et des blancs. Hein, parce que je sais très bien qu'avec les cassettes, on peut me faire dire après n'importe quoi. Parce qu'on enlève ça. Il a fait du racisme. Hein? Mais, souvenez-vous de ce que ma femme a dit quand elle était en Chine, puisqu'elle est née en Chine sans être chinoise. On disait que son père était le diable blanc. C'était chez les jaunes. Alors, donc, je ne parle pas de noir, ni de blanc, mais de ce Satan qui peut se rendre étrangement lumineux, le séducteur, qui peut même avoir toute cette beauté et aussi des paroles qui sont séductrices. Alors, passons plus loin. La dernière partie, verset 16 à 33. Alors, Paul renouvelle les excuses qu'il a déjà faites et il prie les Corinthiens de ne point le regarder comme un insensé s'il continue à parler avantageusement de lui-même. Il avoue qu'en cela, il paraîtra s'écarter vraiment des règles prescrites par le Seigneur. C'est pourquoi il dit, c'est moi qui dis cela, c'est pas le Seigneur. Et il sent très bien qu'il risque de s'écarter des bornes de la sagesse. Mais il dit, ils ont parlé comme des hommes. Ben moi, je vais essayer une fois de parler comme des hommes. Mais il ne dit pas qu'on doit maintenant le suivre. Dans cette certaine circonstance, il se sent obligé de dire, eh bien, puisque veulent parler sans la chair, je veux aussi montrer ce que moi je pourrais dire. Puisque tant de gens se glorifient selon la chair, moi aussi je vais dire quelque chose. Je me sens presque obligé. Puis d'abord, vous, dit-il aux Corinthiens, vous supportez bien ceux qui vous séduisent, ceux qui vous dominent, ceux qui vous dérobent, qui vous volent, ceux qui ravissent vos biens tout en prétendant qu'ils feront des prières pour vos besoins. Ceux qui vous traitent même avec arrogance, ceux qui peuvent même arriver à vous frapper, à vous outrager. Il y a des gens, justement, qui souffraient d'un certain système autoritaire romain et qui ont voulu en sortir et puis qui se sont trouvés après dans un autre système qui n'est pas romain, mais où on est encore plus pape que le pape. Et qui sont privés de toute liberté. Alors, Paul avoue, quand il pense à ce que ces séducteurs font, qu'à cet égard, il est inférieur à eux, et qu'il a montré de la faiblesse. Il se souvient que quand il était là, il n'a jamais abusé. Et il dit, mais j'ai presque honte de ne pas avoir été plus fort avec vous. Alors maintenant, quels sont les avantages dont ces gens se vantent? Alors vous pouvez prendre la liste maintenant. Sont-ils hébreux? Qu'est-ce qu'il dit? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres du Christ? Il dit là, je vais déraisonner, j'extravague. Ben, je suis plus qu'eux. Mais il n'aime pas dire cela, n'est-ce pas? Il n'aime pas se mettre en avant. Mais il dit, vous me contraignez. Ils se disent ministre du Christ. Bien, réfléchissez un peu. Je le suis plus que. Et s'il l'est plus que, sa vie le prouve par tout ce qu'il a souffert pour Christ et par tout ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Parce que comme il l'a dit au début de son épître, si nous avons des souffrances, nous avons aussi des consolations. Et dans toutes mes souffrances, le Seigneur m'a donné des consolations à la mesure de mes souffrances, des délivrances à la mesure de mes détresses. Et c'est tellement vrai, cela. On en fait l'expérience. Mais vous savez, on ne vit pas des expériences passées. Il faut ce renouvellement quotidien. Et il faut toujours que nous soyons remis en quelque sorte à l'extrémité pour qu'on voit tout à coup de nouveau cette issue du Seigneur, cette porte d'espérance, alors qu'on croyait arriver de nouveau à un cul-de-sac. Il n'y a pas de cul-de-sac pour le chrétien. Le diable nous illusionne, il nous fait croire que c'est le cul-de-sac. Mais il y a la porte d'espérance. Il nous fait croire, voilà, il y a la mer rouge qui te barre, il y a derrière toi les armées du pharaon. C'est perdu, c'est fini. Et c'est à ce moment-là que la mer s'ouvre. Mais il nous faut savoir attendre l'heure de Dieu. Et c'est peut-être le dernier quart d'heure qui est le plus difficile. Parce que dans le dernier quart d'heure, on est porté à vouloir agir nous-mêmes. Parce qu'on dit, mais enfin, aide-toi, le ciel t'aidera. Beau verset de l'Écriture. Citez-le-moi. Quel chapitre? Quel livre? Ça vous inciterait peut-être à lire la Bible. Mais comme des jeunes me l'ont dit dans un institut catholique, au sujet d'une autre vérité, où je leur avais dit, cherchez telle vérité dans l'Écriture. Ils sont venus au bout de 2 jours me dire, vous ne pourriez pas nous aider à la trouver, parce que je ne la trouvais pas après 2 journées de lecture. Mais bien sûr, aide-toi, si elle t'aidera, vous ne le trouverez pas. Ce n'est pas dans l'Écriture. C'est laisse-toi faire par le Seigneur. Et tu verras ce qu'il fera. Alors, il prétend qu'il est plus que ministre de Christ. Et il le prouve. Et il expose alors l'étendue des souffrances qu'il a connues. Et il distingue 2 sortes de mots. Les mots extérieurs et puis les peines intérieures. Alors, regardez les mots extérieurs. Il est plus ministre que dans les travaux, dans les coups, et il en a reçu, dans les emprisonnements. Et il connaît les prisons. Il sait ce que c'est qu'être en prison. Il a connu les dangers de mort à plusieurs reprises. C'est un homme qui sait ce que c'est qu'être en danger de mort. Et de se dire, c'est le dernier moment. Vous savez, on peut passer par là. Hein. Mais quand il dit en danger de mort, c'est pas simplement parce qu'il est gravement malade. Mais c'est parce que un jour, on voulait le livrer aux bêtes. Mais c'est pas très drôle d'être livré aux bêtes dans un cirque. Surtout que Paul n'était pas un chasseur. Puis pas seulement cela, les dangers de mort. Mais 5 fois, il dit qu'il a reçu 40 coups moins 1. Qu'est-ce que c'est ça, 40 coups moins 1, ça fait combien? 39. Ben, ça, c'était les Juifs qui administraient le fouet de cette manière. Selon un texte du Deutéronome 25, verset 3, celui qui avait commis une faute, ben, d'après la faute qu'il avait faite, on devait le mettre à nu devant le public, le coucher par terre, elle lui administrait 40 coups moins 1. Alors ça faisait 39. Il ne fallait pas dépasser la mesure. Et il est dit, pourquoi? Alors ne dites pas, ben moi je vais corriger mon enfant. Hein. Je prends cette règle. 40 coups moins 1. Donc tu en auras 39. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est simplement pour montrer qu'il ne faut pas aller plus fort qu'il ne faut. Hein. Il ne faut pas dépasser la mesure. Une correction, ben, elle est peut-être méritée, mais elle doit être mesurée. Et puis, il ne faut pas mettre en danger de mort celui qui est corrigé. Maintenant, on dira, ben, ça c'est pour convenir. Non, mais si vous relisez le livre des Proverbes, Il y a aussi une éducation. Il y en a qui peuvent comprendre. Nos enfants peuvent comprendre par une exhortation. Il suffit des fois de dire une parole. Puis il y en a d'autres qui ne comprennent que par une fessée. Puis qui viennent remercier après. Mais il ne faut pas que cette correction soit donnée dans la colère. Alors, trois fois j'ai été battu de verge. Ça, c'est les Romains. Une fois j'ai été lapidé. Acte 14, verset 19. Lui qui avait fait lapider Étienne, il a su ce que c'était que d'être lapidé. On l'a cru mort. Puis s'est relevé au milieu de tout. C'était pas son heure. Trois fois j'ai fait naufrage. C'est pas drôle, hein. Il nous raconte pas tout sur ces naufrages. On en a un, mais il a eu lieu plus tard. Il en a fait plus que trois de naufrages. Mais au moment où il écrit aux Corinthiens, il a déjà fait trois fois naufrage. Vous plaignez de vos trois déménagements. C'est pas encore un naufrage, un déménagement. Trois fois j'ai fait naufrage. Un jour et une nuit, il s'est trouvé dans l'abîme, c'est-à-dire au fond de la mer. Puis après, ils suivent, et ils citent huit périls qu'il a eus dans ses voyages, sur les fleuves, par les brigands sur les routes, parmi les juifs, parmi les païens. Il a eu des périls dans la ville. On pense que la ville, c'est mieux, hein, on sera plus protégé. Dans les déserts, sur la mer, et puis parmi les faux frères. Il a été en travail, il dit, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. Il a connu la faim. Il a connu la soif. Il a connu des jeûnes. Pas nécessairement parce qu'il se les imposait, mais aussi peut-être parce qu'il se les imposait quelquefois, parce que on a l'esprit plus libre quand on a jeûné. Parce que quand on a trop mangé, et qu'on vient à une réunion, on a envie de dormir. Oui. Alors, peut-être qu'on peut jeûner, mais quand vous jeûnez, c'est pas un mérite vis-à-vis de Dieu, c'est pour vous aider. Que vous mangiez, c'est pour le Seigneur que vous jeûniez. C'est pour le Seigneur. Il a été exposé au froid et à la nudité, c'est-à-dire au dénuement. Alors vous direz, oui, mais le Seigneur nous dit que nous ne manquerons de rien. Mais Paul dit, mais moi j'ai appris à être content dans la situation où je me trouve. C'est un apprentissage. Je sais être dans l'abondance. Il y a des gens qui ne savent jamais être dans l'abondance. Ils ont mauvaise conscience parce que Dieu leur fait un cadeau. Ben, il faut savoir aussi être dans l'abondance. Mais je sais aussi être dans les privations. Quel équilibre ! Et c'est ça, le vrai christianisme, c'est l'équilibre. Alors, les mots intérieurs, pour terminer, c'est peu de choses encore, ces souffrances du dehors. Ce qui est plus difficile à supporter, nous montre Paul, ce sont ces soucis quotidiens, les inquiétudes morales, qui reviennent chaque jour au sujet des églises, des faiblesses, des scandales qui s'y trouvent et qui assaillent son âme. Vous croyez que quand on a la responsabilité d'un camp et qu'on sait tout ce qui peut s'y passer, qu'il n'y a pas là un fardeau qui est peut-être plus accablant encore que d'autres tâches matérielles et où il nous faut toujours veiller et où même sans le vouloir, à 3h du matin, on découvre des choses dont on n'avait pas du tout idée, sans le vouloir. Alors, vous voyez, c'est pas drôle. Puis après, ben, il faut régler toutes ces questions. Puis il faut les régler aussi avec équilibre, dans l'amour, mais aussi avec fermeté. Alors, il y a des fardeaux, mais vous voyez, comme il est équilibré, il dit, qui est faible, que je ne sois faible. C'est cette compréhension. Voilà quelqu'un de faible, ben, moi je veux lui montrer que je suis comme lui, je ne veux pas l'écraser avec mon autorité, mais il est faible, Je lui montrais que moi aussi, ça pouvait m'arriver. Alors, je vais l'aider. Qui vient à tomber, quand j'arrive, puis je lui donne le dernier coup de pied, il est déjà par terre. Alors, moi, avec mon autorité spirituelle, ah ben, tu es par terre, tu l'as bien mérité. Parti. Je le fixe. C'est ça? Mais non, mais qui vient à tomber que je ne brûle, ça fait mal. Et je voudrais le relever. Ne disions-nous pas hier, est-ce qu'on tombe et qu'on ne se relève pas? Est-ce qu'on se détourne et qu'on ne revient pas? Alors l'apôtre dit qu'il aime mieux se glorifier en insistant sur les maux extérieurs qui le font paraître plus faible aux yeux des hommes que de parler de toutes ces angoisses qu'il peut avoir, de tout ce fardeau. Il est mieux dire, ben voilà, les coups que j'ai reçus parce que ça l'a marqué dans ses fatigues, tout cela, eh bien, il en a le visage marqué. Il dit, je porte en mon corps les marques de Jésus. Et alors, c'est pour ça qu'il finit par, il rappelle la persécution qu'il a endurée à Damas. Et avant de parler de cette persécution, il affirme à la fin, là, au verset 31, qu'il prend Dieu à témoin que tout ce qu'il vient de dire, et la vérité. Je prends Dieu à témoin que ce que je vous ai dit au sujet de mes souffrances, c'est la vérité. J'ai passé par là. Alors, maintenant, il rappelle cette persécution tout à fait au début de son ministère. Il venait de se convertir et à Damas, où il a prêché l'évangile, au lieu de mettre en prison ceux qui aimaient le Seigneur, eh bien, il a connu une première humiliation. Le roi Arétas voulait l'arrêter, le mettre en prison. Et puis il a dû consentir à ce que les frères ou les sœurs le mettent dans un panier, pas le panier à salade, mais enfin dans une corbeille, trouvent un moyen avec une corde de le descendre, c'est un peu comme chez Hérab, la maison était sur la muraille, et comme toutes les portes de Damas étaient fermées, on a vu Paul, le Saul de Tarse, le persécuteur, gigotant dans une corbeille, qui descendait la muraille en pleine nuit pour qu'il ait la vie sauve. Ben, il dit ça, oui. Alors, il me semble qu'il aurait dû commencer par nous raconter ça. Parce que ça a été tout à fait au commencement de son ministère. Alors, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il met ça à la fin? Parce que dans le chapitre 12... Il va nous montrer comment, après avoir été descendu dans une corbeille par-dessus la muraille, le Seigneur l'a élevé jusqu'au ciel, dans le paradis, où il a entendu des choses ineffables. Ce paradis où se trouve le brigand sauvé dont nous avons parlé hier soir. Vous voyez comme tout se lit. Jésus avait dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et voilà que l'homme qu'on a descendu dans une corbeille à Damas sera enlevé avant sa mort pour entrer dans ce paradis et comprendre là, d'une façon extraordinaire, que c'est bien meilleur que partout ailleurs, mais que si on doit vivre sur la terre, il en vaut la peine, mais que pour vivre sur la terre et ne pas broncher, il faut peut-être qu'on ait beaucoup d'épreuves. Parce que son sens glorifierait de notre force. Et alors, ce que nous verrons demain, c'est que ce qu'il a compris, c'est que pour que Dieu puisse se glorifier dans nous, en nous, il faut que notre orgueil ait été brisé, puis que nous soyons dans cette faiblesse. Et c'est donc notre faiblesse qu'il montrera sa puissance, mais une puissance de vie, une puissance de paix, une puissance d'amour, mais on l'attribuera jamais, cette puissance, à l'homme, on l'attribuera au Seigneur. Voilà. Vous êtes tannés. Je suis revenu un peu sur le chapitre précédent parce que ça se lit. Hein. Parce que ça nous montre qu'au fond, pour Paul, il avait vu Jésus. Et tout ce qui en découle, l'acceptation de ses souffrances, c'est parce que il connaissait l'homme de douleur. Et pour lui, de pouvoir souffrir pour le Christ, c'était une gloire. Alors, d'où vient le ministère authentique aujourd'hui? L'authenticité d'un ministère. Groupe 1. Merci. Groupe 2, que vous avez souligné, n'est-ce pas? Et gagne les âmes au Seigneur, hein, et non à lui-même. C'est pour le Seigneur. Est-ce que je peux demander à l'un d'entre vous de terminer par la prière?
Amen.